aujourd'hui, donc, je vous présente Jean-Nicolas Ilioz, qui est professeur donc, à l'Université de Paris 8 et qui a énormément travaillé sur Nerval et sur la poésie de la seconde moitié du XIXe siècle, et donc sur la poésie symboliste. Et donc, sa conférence se déroulera selon un diptyque. Il y aura une première partie qui sera consacrée beaucoup plus spécifiquement à Sylvie et donc au genre lyrique dans Sylvie, et une deuxième partie qui sera centrée beaucoup plus sur l'appendice, sur les chansons et les contes du Valois. Vous n'hésitez pas, et je pense que Jean-Nicolas Ilioz en est d'accord, à poser toute question qui pourrait concerner votre programme, et donc la question du temps vécu dans la nouvelle de Nerval. Voilà.
Bien, bah écoutez, je voulais chaleureusement remercier monsieur et remercier madame Riffaut d'organiser cette conférence ce soir. Je vous remercie d'être là également. Je vous souhaite d'en profiter au maximum et de poser toutes les questions, profitez-en, qui vous viennent à l'esprit. Merci encore et bonne soirée.
Bien, c'est à moi de vous remercier de votre accueil, madame la directrice, et puis de vous remercier, Nicole Riffaut, pour votre invitation. M'inviter à parler d'un auteur en effet que j'aime beaucoup, et j'espère vous faire partager cet amour pour cet auteur. Et je redis ce que vous disait Nicole Riffaut, n'hésitez pas à dialoguer avec moi, je crois que ce peut être très utile pour vous. Alors je me lance dans le sujet que je me suis donné pour aujourd'hui. Je voudrais réfléchir sur Nerval et les genres lyriques, l'idylle, l'élégie, la satire dans Sylvie de Nerval. Et pour poser ces questions d'esthétique, je voudrais d'abord faire un détour par un bref détour, assurez-vous, par la philosophie allemande et notamment par Schiller. Donc, par Schiller, que Nerval a traduit et dont il a traduit dont il connaissait probablement sans l'avoir traduit un ouvrage intitulé De la poésie naïve et sentimentale. Et ce couple entre la poésie naïve et sentimentale, je voudrais le voir s'inscrire dans le diptyque que forment Sylvie et Chansons et légendes du Valois. Chansons et légendes du Valois étant du côté de la poésie naïve, selon Schiller, je vous expliquerai ce dont il s'agit, tandis que Sylvie serait du côté de la poésie sentimentale. La différence pour Schiller entre la poésie naïve et la poésie sentimentale, c'est que la poésie naïve est une poésie qui est au monde, une poésie de l'immédiateté sensible, en quelque sorte, une poésie de la nature, alors que la poésie sentimentale est une poésie à la recherche d'une nature perdue, et donc à la recherche d'une nature perdue qu'il s'agit de reconstruire par l'imaginaire et par le langage. En outre, Schiller, au sein de la poésie sentimentale, donc cette poésie réflexive, distingue trois genres lyriques principaux: l'idylle, l'élégie et la satire. Et ces trois genres, Schiller va les définir à partir du couple philosophique qui oppose l'idéal et la réalité. L'idylle se définit par un accord entre idéal et réalité. Et cet accord entre idéal et réalité suscite un sentiment de joie. L'élégie, pour sa part, met l'accent sur l'idéal en tant que l'idéal manque dans la réalité. Et vous devinez peut-être la définition de la satire. La satire met l'accent sur la réalité en tant que la réalité est discordante par rapport à l'idéal. Donc voilà trois modes lyriques principaux, l'idylle, l'élégie et la satire, définis à partir d'une opposition philosophique entre idéal et réalité. L'idylle est un accord entre l'idéal et la réalité et suscite un sentiment de joie. L'élégie met l'accent sur l'idéal en tant qu'il manque dans la réalité et donc suscite un sentiment de tristesse. La satire met l'accent sur la réalité en tant que la réalité est discordante par rapport à l'idéal et donc suscite l'ironie. Eh bien, cette philosophie esthétique me semble très discrètement, mais très profondément, présente dans Sylvie. Et j'en vois un indice dans une phrase qui se trouve au 14e chapitre de Sylvie, où Nerval écrit à propos de l'opposition d'Adrienne et de Sylvie, l'une était l'idéal sublime, l'autre la douce réalité. Donc, en opposant Adrienne et Sylvie, métapoétiquement, Nerval, en fait, oppose deux formes de poésie, une poésie de l'idéal et une poésie représentée par Adrienne et une poésie de la réalité, ou plutôt de la douce réalité, représentée par Sylvie, la petite paysanne. Et donc, mon intuition, à partir de ce texte de Schiller, de cette pensée de Schiller sur les genres lyriques, ce serait que le récit de Sylvie, nourri des pensées de la philosophie esthétique allemande, le récit de Sylvie propose une poétique des genres, une poétique hybride, qui mêle l'idylle, l'élégie et la satire. L'idylle, dont le personnage de Sylvie donne le code, l'élégie, qu'il faut rapporter, nous le verrons, à Adrienne, et la satire, qui est assumée par le narrateur, qui souligne le divorce de la réalité et de l'idéal, et dont l'ironie amère, sensible dès les premières lignes de la nouvelle, ne se révèle cependant que dans les dernières pages du récit. Donc, dans un premier temps, je voudrais réfléchir sur l'idylle dont le code, en quelque sorte, est porté par le personnage de Sylvie. Le titre de la nouvelle l'indique, l'idylle est le genre dominant dans le récit de Sylvie. Au reste, Nerval en est pleinement conscience, puisque lui-même présente son récit comme une sorte d'idylle. Il écrit au fils de George Sand, Maurice Sand, « Ceci est une sorte d'idylle, dit-il, écrit-il à propos de Sylvie, dont votre illustre mère, il s'agit de George Sand, est un peu la cause par ses bergeries du Berry. » Et la référence à l'idylle est si prégnante dans le récit de Nerval qu'elle a sauté aux yeux des premier lecteur de Nerval, de ses contemporains. Gautier, par exemple, dit de Sylvie qu'elle est une idylle des environs de Paris, digne d'être située aux lisières des forêts d'Arcadie, écrit-il. plus tard, beaucoup plus tard, au XXe siècle, Jean Giraudoux voit en Herval un Théocrite d'outre-terre. Dans le texte même, la référence à l'idylle est tout à fait explicite. Et elle est explicite notamment au dernier feuillet, au chapitre 14, qui va mêler au moins quatre références principales au genre de l'idylle. La première, c'est la référence à Gessner. Ermenonville, est-il dit, pays où fleurissait encore l'idylle antique, traduite une seconde fois d'après Gessner, tu as perdu ta seule étoile qui chatoyait pour moi d'un double éclat. Or, Gessner est un poète de Suisse alémanique et il est précisément l'auteur d'idylles qui ont eu un succès considérable dans l'Europe romantique. Ces bergers et ces bergères ont des noms grecs renouvelés de Théocrite ou de Longus, et Gessner illustre la version précieuse et maniérée de l'idylle lorsque celle-ci glisse vers la bergerie factice, chère au XVIIIe siècle. Dans ce même chapitre 14, le nom de Gessner voisine avec celui de Roucher, Roucher qui sera guillotiné en même temps qu'André Chénier sous la Révolution et qui est l'auteur d'un recueil qui s'intitule « L'émoi ». Et le titre l'indique assez, le recueil de Roucher se situe dans la tradition de la géorgique reprise à Virgile. Et les traits de la géorgique, de cette poésie descriptive et didactique qu'est la géorgique, peuvent très bien passer dans le genre de l'idylle. Voilà pour déjà deux références. Mais en plus de ces deux références, Nerval évoque deux autres références, moins directement mais tout aussi profondément liées à l'idylle. Dans ce même chapitre 14, il évoque le nom de Rousseau à travers la nouvelle Héloïse. Je cherche partout à retrouver mes bosquets de Clarence, dit-il, perdus au nord de Paris, dans les brumes. Donc la référence à l'épisode de Clarence dans la nouvelle Héloïse de Rousseau est très clairement une référence à un modèle idyllique. De même, il évoque une autre forme d'idylle chez Goethe. Le Werther de Goethe est une variation romantique sur l'idylle. La référence est là aussi tout à fait explicite. Et remarquez au passage combien l'intertextualité de la nouvelle est foisonnante. J'y reviendrai. Mais la référence à Goethe est explicite. Je l'appelle quelquefois Lolotte, il s'agit de la Charlotte de Werther, et elle me trouve un peu de ressemblance avec Werther, moins les pistolets qui ne sont plus de mode. La multiplicité des références en ce seul chapitre 14 n'est pas seulement le signe de la gamme extrêmement large que recouvre le genre de l'idylle, elle témoigne aussi de la fabuleuse intertextualité du récit de Sylvie et caractérise l'esthétique de la nouvelle qui brode, non sans maniérisme, j'y reviendrai, sur les modèles anciens et modernes de l'idylle, en se présentant très explicitement au fond comme une sorte de patchwork de réminiscences littéraires. Donc vous voyez, l'idylle est explicitement convoquée dans le texte. Par ailleurs, dans sa forme même, le récit emprunte à l'idylle, puisque le mot « idylle » vient du grec « eidos », la forme, et le diminutif c'est « eidulion », qui signifie la petite forme et le petit tableau. Donc l'idylle est un petit tableau champêtre. Eh bien, Sylvie, dans sa forme, dans son esthétique, se présente comme un déroulement de petits tableaux. Tant et si bien que Sylvie se prête à l'illustration et Nerval a rêvé de faire illustrer Sylvie. Il a voulu une édition illustrée de Sylvie et il s'en ouvre justement à Maurice Sand, qui était peintre, le fils de George Sand. C'est dans une lettre du 5 novembre 1853 où il énumère les différentes gravures ou eaux-fortes qu'il voudrait que le peintre compose pour sa nouvelle. Je cite cette lettre. « Il y aurait la fête de l'arc, dite du bouquet provincial, un banquet rustique dans un temple à demi ruiné avec des barques sur le lac, une scène de reconnaissance à un bal, une scène chez une vieille tante où les amoureux se déguisent avec ses habits de noces et ceux de son mari, une représentation de l'abbaye de Chaalis avec les demoiselles d'une pension qui jouent une pièce religieuse, une scène d'amour dans les bois, un âne et un petit garçon qui suivent, un souper dans une ferme avec un vieux paysan qui chante des gaudrioles. Voilà les principaux sujets, ou du moins, dit Nerval à Maurice Sand, vous pourriez choisir là-dedans. Il y a encore une scène de comédien dans la forêt de Chantilly, une danse de jeunes filles sur le parterre d'un château du temps de Henri IV. J'ajouterai à cela des vues d'Ermenonville, de Mortefontaine et de Dammartin. La nouvelle vous indiquera suffisamment le genre de paysage qui est celui des watteaux et des lancrés. C'est là le genre, même, moins sévère que le paysage du Berry, qui donnerait un caractère aux compositions. Donc, il imagine des tableaux pour Sylvie d'un genre moins sévère que les paysages du Berry. Donc, il y aurait une douceur de style dans le style de Sylvie. Et remarquez que la palette est extrêmement large et que Nerval n'hésite pas à faire référence à des peintres de la vie champêtre, aussi bien Lancré que Watteau. Et dans la nouvelle même, j'y reviendrai, nous avons le peintre Greuze, qui tous représentent la vie champêtre, la vie au champ, en modulant diversement les valeurs de l'idylle. En tout cas, voilà. Donc, l'œuvre fait référence à ces modèles plastiques. L'œuvre elle-même est un petit tableau, ou mieux, une série de petits tableaux, Eidulion, une série d'idylles. D'autre part, la rhétorique de l'idylle est bien là dans le récit, et Nerval très consciemment, j'insiste là-dessus, Nerval très consciemment parcourt tous les lieux communs, les topoi du genre idyllique. Et parmi ces lieux communs, il en est un particulièrement remarquable par sa fortune historique, c'est le lieu commun du locus amoenus, le lieu charmant, le lieu agréable. Prairies et forêts, grottes et fontaines, toutes hantées par la présence diffuse des dieux antiques, servent de cadre à des conversations amoureuses ou à des méditations philosophiques ou poétiques. Bref, le texte peut se lire comme une variation sur le mythe de l'Arcadie, où la Tève et la Nonette, qui sont les deux rivières du Valois nervalien, auraient remplacé l'Alphée ou le Lignon, évoqué par Honoré d'Urfé dans l'Astrée. Au reste, pour parler le langage de Bakhtin, nous avons dans notre récit ce que l'on pourrait appeler le chronotope de l'idylle. L'idylle, c'est un lieu à l'écart de tout lieu. Donc, notamment, c'est à l'écart de la ville et des soubresauts de l'histoire. Le Valois nervalien est un Valois inaccessible, demeuré à l'écart de l'industrialisation, relativement à l'écart de l'industrialisation. Et c'est un temps hors du temps, puisque dans ce Valois, abattu pendant plus de 1000 ans, depuis plus de 1000 ans, le cœur de la France, donc le Valois nervalien nous parle, si vous voulez, de l'immémorial, et l'origine est demeurée intacte. Le Valois est un lieu originaire dans l'imagination et dans la construction littéraire qu'en propose Nerval. L'intrigue elle-même, un petit Parisien amoureux d'une petite paysanne, est conforme aux attentes les plus convenues du genre. Et le texte joue très consciemment sur cet horizon d'attente du genre, puisque par exemple, dans la chambre de Sylvie, il n'omet pas de signaler la présence, je cite, « d'un antique trumeau où se voyait un berger d'idylle offrant un nid à une bergère bleue et rose. » Donc vous voyez, encore une fois, il y a dans le texte un détail qui métapoétiquement désigne le genre de la nouvelle, le genre idyllique. Quant aux scènes de Sylvie, ce sont les scènes typiques de l'idylle. Les scènes canoniques de l'idylle, ce n'est que fête ou bal, dînette enfantine ou repas de noces, colloque sentimental ou promenade solitaire. Enfin, la philosophie de l'idylle est bien présente, avec au moins deux noms qu'il faut peut-être évoquer. Le nom de Rousseau, qui permet de dénoncer la corruption de l'homme dans la ville, dans les villes, alors qu'il se révèle pur au contact de la nature, Rousseau, mais l'on peut aussi évoquer le peintre Poussin, qui propose une autre philosophie de l'idylle dans son tableau intitulé « Les bergers d'Arcadie », sur lesquels un berger découvre une inscription sur une tombe sur laquelle il y a écrit « Et in Arcadia ego ». Moi aussi, j'ai été en Italie, en Arcadie. Moi aussi, alors on pourrait gloser sur qui est ce moi. Moi aussi, berger, j'ai vécu en Arcadie. Donc toi, passant, cueille le jour, profite de la vie. Mais l'on peut l'entendre aussi autrement. Moi aussi, la mort, j'habite en Arcadie. Et le bonheur de l'idylle est l'autre face d'une vanité, en quelque sorte, où, derrière laquelle la mort se dissimule. Eh bien, ce thème philosophique, cette méditation sur la mort que porte l'idylle, malgré qu'elle en ait, est bien présent, ne serait-ce que dans le chapitre intitulé Ermenonville, où il est question du tombeau vide de Rousseau. Donc vous voyez, tout y est. La forme, les petits tableaux, d'abord la mention explicite à l'idylle, la forme, les petits tableaux, la rhétorique de l'idylle, la philosophie de l'idylle. Mais le plus impressionnant est encore ailleurs. La nouvelle ne se contente pas de mobiliser les lieux communs de l'idylle, elle les organise selon une logique qui permet d'embrasser toute la gamme des formes que le genre peut revêtir, de la plus réaliste à la plus idéale. L'idylle, en effet, repose sur un équilibre, et un équilibre est par définition instable. Un équilibre entre des éléments de réalité et des éléments d'idéalité. Cet équilibre, pour Boileau, par exemple, conditionne la réussite esthétique de l'idylle qui doit trouver son ton entre deux écueils, celui d'un prosaïsme trop grand dans la peinture de la vie pastorale et celui d'une artificialité excessive dans la poétisation des mœurs rurales. Cet équilibre donc entre idéal et réalité que doit trouver chaque fois l'idylle, eh bien, cet équilibre est incarné en quelque sorte dans la personne même de Sylvie, puisque du côté de la réalité, la petite paysanne présente des signes d'individualité qui l'inscrivent en effet dans la réalité. Elle a, nous dit le texte, la peau légèrement hâlée, comme les filles qui travaillent au champ. Mais à côté de ces indices de réalité, ne manquent pas non plus des indices d'idéalité. Et notamment, le texte ne cesse de la comparer à une Minerve souriante et naïve, et toujours il est question de son sourire athénien. Donc derrière la petite paysanne, du côté de la réalité, il y a, du côté de l'idéalité, quelque chose comme une déesse antique, une nymphe antique, dit le texte. Et toujours, il note sur Sylvie la présence d'un sourire athénien. Cet équilibre entre l'idéal et la réalité est particulièrement sensible dans un chapitre de Sylvie. C'est le chapitre 6, intitulé « Otis ». Donc, je vais vous présenter ce chapitre particulièrement riche quant à la thématique de l'idylle. Le chapitre 6, « Otis », donc, vous vous souvenez, il s'agit d'une dinette enfantine dans la maison de la tante à Otis. La chaumière est décrite et la vie quotidienne est présentée dans sa réalité rustique. Donc les éléments de réalité sont là et notamment sont présentés les mets, les aliments que l'on mange dans le repas est un thème idyllique typique. Et les aliments ici ne manquent pas, mais ils sont de nature différente. Il y a dans ce chapitre du lait, du pain bis et du sucre. Il y a surtout des fruits rouges, des fraises, des groseilles, des cerises. Ça, c'est ce que Sylvie apporte. Et de l'autre côté, avec un cran plus bas dans le réalisme, il y a des œufs au lard que sert la tante. Donc, une tranche de lard frite avec des œufs. Donc vous voyez le rapport des mets et des mots, si vous voulez. Ces mets sont en fait des indications génériques. Ici, l'idylle dans son aspect idéal. Là, l'idylle toujours, mais dans son aspect plus prosaïque, plus réaliste. D'ailleurs, dans ce chapitre repose sur une organisation très particulière de l'espace. Il y a le bas et le haut. Le bas, c'est la cuisine, c'est donc la réalité. Le haut, c'est la chambre, c'est donc l'idéal, le rêve. Et l'on monte dans la chambre, et en montant dans la chambre, Sylvie se change, la petite paysanne, se change en fée des légendes éternellement jeune. Donc monter signifie poétiser, si vous voulez. Et par ailleurs, les références intertextuelles sont là aussi extrêmement signifiantes. Au début du chapitre, nous avons affaire à une chaumière dans une prairie. On est donc à la fois dans le roman rustique, à la façon de George Sand, la vie des champs dans sa dimension la plus humble. On pourrait être aussi déjà dans ce que les Allemands appellent le Märchen, c'est-à-dire le conte de fées. Mais à l'arrivée, on arrive à une mention du cantique des cantiques. Du cantique des cantiques. Puisque la dernière phrase de ce chapitre, c'est « Nous étions l'épouse et l'épouse pour tout un beau matin d'été ». Et l'époux et l'épouse, c'est un renvoi manifeste au cantique des cantiques, à la Bible. Or, que sont les rois de la Bible, sinon encore des bergers? Donc, le cantique des cantiques, d'une certaine façon, est une idylle, mais une idylle sublime. C'est le degré le plus élevé de l'idylle. Donc, ici, vous avez ce que l'on pourrait appeler le genus, ce que les Latins appellent le genus humile, le genre bas de l'idylle. Ici, vous avez son genus sublimé, le genre élevé de l'idylle, et le plus élevé puisqu'il s'agit de poésie sacrée. Nous étions l'épouse et l'épouse pour tout un beau matin d'été. Et entre les deux, exactement à la mi-temps du chapitre, comme il se doit, vous avez le genre moyen, donc le genre moyen, médiocris, diraient les Latins, et ce genre moyen est figuré dans le chapitre 6 par la référence à Greuze, puisque la peinture de Greuze se caractérise, l'accordé du village de Greuze, se caractérise par un mélange dans le tableau entre des signes de réalité, une poule est sur la terre, dans la ferme, et un mélange d'idéalité, puisque la jeune fille est donnée en mariage au jeune homme, et Diderot voyait très bien toute la rhétorique, l'emphase rhétorique de la scène, qui a pourtant pour décor un décor humble. Donc vous voyez, Greuze réalise cet équilibre entre la réalité et l'idéalité. Vous voyez donc en même temps toute la difficulté de tenir cet équilibre. L'idylle peut ou pencher trop vers le réalisme et tomber dans le roman rustique, ou s'élever trop dans le poétique et toucher à un autre genre. Dans la succession des chapitres, on pourrait dire, par exemple, que le chapitre 4, intitulé « Un voyage à Cythère », par la référence à Watteau, donc aux fêtes galantes, donne la version la plus poétique, idéale de l'idylle, les fêtes galantes. Au contraire, au chapitre 12, intitulé « Le père dodu », nous avons affaire à la version la plus prosaïque, la plus réaliste ou la plus prosaïque de l'idylle. Il était encore question d'un repas, mais on ne mange plus cette fois des fraises, des groseilles, des cerises, mais une soupe à l'oignon. Et on boit du ratafia, qui est un alcool de fruits. Comme au chapitre 6, on chante, mais au chapitre 6, la tante chantait un naïf épithalame qui lui rappelait ses noces d'antan, alors qu'au chapitre 12, le père dodu se risque à chanter à table des gaudrioles. Donc le chant s'est profané, si vous voulez, et tombé dans le trop réaliste. Et le réalisme s'indique même dans la façon dont Nerval reproduit, sinon les patois paysans, du moins les parlers, les prononciations locales. Il est question de l'io au lieu de dire l'eau. La bête est naillée au lieu de dire qu'elle est noyée. Donc, vous voyez, il reproduit de manière réaliste le parler des gens de la campagne. Et Sylvie est écrite en 1852. Ce sont les années où la question du réalisme se pose avec beaucoup d'acuité en littérature. Donc vous voyez, notre nouvelle, Sylvie, est capable, en quelques pages, 14 chapitres, de parcourir toute la gamme de l'idylle, de la plus réaliste à la plus idéale. La plus réaliste nous entraîne vers le roman rustique, un peu à la façon de George Sand. La plus idéale nous mènerait vers les fêtes galantes, à la façon de Watteau. Et entre, il y a le genre moyen de la pastorale, genre auquel Sylvie est liée par son nom même, puisque le nom de Sylvie renvoie entre autres à Théophile de Viaux, auteur d'une pastorale en vers intitulée « La maison de Sylvie ». Voilà donc quelque chose de très remarquable, cette virtuosité avec laquelle Nerval parcourt toute la gamme de l'idylle. Mais je vais laisser maintenant l'idylle et je vais passer à cet autre genre défini par Schiller et présent dans notre texte, l'élégie. Et en réalité, de l'idylle à l'élégie, il n'y a qu'un pas, pour deux raisons. Parce que si l'idylle était en quelque sorte un idéal réalisé, c'était aussi un idéal limité à une réalité réduite, la réalité champêtre. Et d'autre part, le bonheur de l'idylle, en tant qu'elle est l'idéal réalisé, nous disait Schiller, est un bonheur qui se conjugue au passé. L'idylle est toujours déjà, si vous voulez, la nostalgie de l'idylle. Et donc, en réalité, de l'idylle à l'élégie, il n'y a qu'un pas qui est très vite franchi, et il faut peu de choses pour que la mélancolie qui est sous-jacente à l'idylle se révèle, s'accentue, et que l'on glisse alors dans l'élégie. L'élégie, en long habit de deuil, dit Boileau, l'élégie, c'est ce genre qui déplore la perte de l'idéal, nous disait Schiller, d'un idéal qui s'est retiré de la réalité. Or, l'élégie est bien présente dans notre récit, et on pourrait dire que l'élégie accompagne l'idylle comme la religieuse, Adrienne, accompagne la petite paysanne, Sylvie. L'une semble l'ombre portée de l'autre. Et le récit glisse de l'une à l'autre, non par opposition, mais par un jeu proprement musical de modulation ou de contrepoint. En tout cas, c'est Adrienne qui donne le timbre, la note élégiaque dans le récit. Les choses sont évidentes là encore, tous les détails caractérisant le personnage peuvent se lire métapoétiquement comme caractérisant aussi un genre. Donc, par exemple, l'ascendance princière d'Adrienne dispose Adrienne à figurer métapoétiquement un registre poétique plus élevé que celui qui est attaché à la petite paysanne. Au chapitre 2 et au chapitre 7, Adrienne est d'ailleurs explicitement associée au modèle de Dante et de Pétrarque, qui seront également évoqués dans Aurélia. Et au chapitre 2, qui commence par l'évocation d'une simple ronde enfantine et se termine par une allusion à Dante, eh bien, ce chapitre 2 figure bien cette élévation du registre poétique. Cette élévation du registre poétique est encore accusée au chapitre 7, où le motif du chant n'est plus illustré par une chanson populaire, mais par un air appelant une diction plus savante et qui sera identifié au chapitre 11 comme étant un air de Porpora. Et Nerval dit, à propos de cet air, Sylvie dit « c'est joli » et le narrateur, le héros narrateur, lui répond en disant « c'est sublime ». Vous voyez, là aussi, il y a une opposition de deux esthétiques, une esthétique du joli, où se tient la petite paysanne, et une esthétique du sublime, le rêve, le héros narrateur. Par ailleurs, l'idéalisation d'Adrienne va de pair avec ce que le poète Yves Bonnefoy appellerait son excarnation. Autant Sylvie est incarnée, inscrit l'idéal dans la réalité, au contraire, Adrienne est d'abord dite une image, image du bonheur, entrevue. Bientôt, elle est un mirage, et un cran de plus, elle devient un fantôme, un cran de plus dans sa déréalisation, elle devient un fantôme, fleur de la nuit, éclose à la pâle clarté de la lune, fantôme, rose et blond, glissant sur l'herbe verte, à demi baignée de blanche vapeur. Et dans le texte, comprenez bien que la disparition d'Adrienne vaut comme la disparition de l'idéal, et donc cette disparition de l'idéal introduit au registre de l'idylle au sens propre, de l'élégie au sens propre. Alors, on pourrait, là aussi, retrouver dans le texte toute la rhétorique de l'élégie. Notamment, il y a une figure de l'élégie qu'on pourrait formuler en termes latins, ubi sunt, où sont, donc chez Villon, ça devient où sont les neiges d'antan, chez Nerval, dans une odelette, ça donne où sont nos amoureuses, elles sont au tombeau, elles sont plus heureuses, dans un séjour plus beau, et ce où sont élégiaques, où est passé tout ce qui a disparu, on l'entend par exemple très clairement au chapitre 9, où sont les buissons de roses qui entouraient la colline, l'églantier et le framboisier en cachent les derniers plants qui retournent à l'état sauvage, quant aux lauriers, les a-t-on coupés, comme le dit la chanson des jeunes filles qui ne veulent plus aller au bois, etc. Donc vous retrouvez la rhétorique, les figures typiques de l'élégie dans notre nouvelle. Mais comme pour l'idylle, la nouvelle, avec beaucoup de finesse, va parcourir toute la gamme du sentiment élégiaque. Et je donnerai cet exemple-ci. Au chapitre 11, le héros narrateur demande à Sylvie de répéter les paroles que chantait Adrienne. Elle répéta les paroles et le chant après moi. Ange descendait promptement au fond du purgatoire. C'est bien triste, me dit-elle. C'est sublime, répond le narrateur. Je crois que c'est du porpora, avec des vers traduits au XVIe siècle. Je ne sais pas, répondit Sylvie. Eh bien, là encore, derrière la simplicité de cet échange, c'est bien triste, c'est sublime, vous pouvez lire métapoétiquement des indications génériques. C'est bien triste, c'est le genre larmoyant, cher au XVIIIe siècle, et dans la nouvelle, Sylvie pleure souvent. Mais le genre larmoyant, c'est un degré faible de l'élégie. Et vous avez son degré sublime, que le héros romantique appelle de ses voeux, c'est sublime. Et ce degré sublime de l'élégie, il est contenu dans Sylvie, mais il se déploiera avec toute sa force dans Aurélia. L'intrigue d'Aurélia se résumerait à une seule phrase que l'on trouve au début du chapitre 1 d'Aurélia. Une dame que j'avais aimée longtemps et que j'appellerai du nom d'Aurélia était perdue pour moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte de la dame équivaut à la perte de l'idéal, et cette perte de l'idéal revêt dans Aurélia cette fois des proportions véritablement catastrophiques, puisque Aurélia est en quelque sorte un traîne, un chant de deuil, un traîne élégiaque, disant la disparition de l'idéal hors du monde et laissant l'univers dans la nuit, comme il est dit au chapitre 6 d'Aurélia. Donc vous voyez, on trouverait, quoique de manière plus discrète, toute la gamme de l'élégie, le registre du triste, du larmoyant, mais aussi le registre du deuil infini, le traîne élégiaque. Par ailleurs, Boileau le disait, il faut que l'élégie sonne juste. Et donc, Boileau voulait nous dire que l'expression de la plainte peut toujours devenir factice si elle est trop ornée, trop belle, trop littérairement construite. Ce risque de facticité dans l'expression de la plainte est bien présent dans notre récit. Par exemple, dans ce passage, « La route était déserte, j'essayais de parler des choses que j'avais dans le cœur. Mais je ne sais pourquoi, je ne trouvais que des expressions vulgaires ou bien tout à coup quelques phrases pompeuses de romans que Sylvie pouvait avoir lues. Je m'arrêtais alors avec un goût tout classique et elle s'étonnait parfois de ces effusions interrompues. » Donc ce que le texte nous dit ici, c'est que le sentiment, ce que l'on a dans le cœur, est toujours déjà gagné par la littérature. Il y a dans Sylvie quelque chose comme les fragments d'un discours amoureux, en quelque sorte le plus sincère du cœur est toujours envahi par le risque du littéraire, et ce risque explique aussi la dualité d'Adrienne et d'Aurélie, de la religieuse et de l'actrice. La comédienne remplace la religieuse, cela veut dire que l'amour se change en comédie de l'amour et la parole du cœur se travestit dans le théâtre. Mais en se théâtralisant, l'élégie, précisément, peut afficher sa propre rhétorique qui apparaît au grand jour au chapitre 14, le dernier feuillet. On reconnaît très bien, au début de ce chapitre 14, les caractéristiques du genre élégiaque. L'appel au cœur sensible, mais bien des cœurs me comprendront. La revendication, sur le mode fin de l'excuse, d'une savante négligence qui convient au genre de la lamentation. J'ai dit mes sentiments, dit Nerval, sans beaucoup d'ordre. Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J'ai essayé de les fixer sans beaucoup d'ordre. Donc Boileau nous disait que quand on se plaint, quand on exprime la plainte, il faut laisser un peu de désordre, de trouble dans l'expression. Eh bien, se troublier. Mais le beau désordre qui est ici évoqué, s'il est dicté par l'émotion, est en réalité prescrit par la loi du genre qui exhibe donc ses conventions. Et c'est à ce moment du texte, au 14e chapitre, le dernier feuillet, que l'idylle, comme l'élégie, se voit donc marqué d'ironie et par là subsumé dans la satire. Et donc j'en viens au troisième genre lyrique que définissait Schiller, le genre de la satire. Eh bien, la satire, le ton satirique, ironique et satirique, apparaît au grand jour au dernier feuillet, le chapitre 14. Mais, à bien entendre le texte, ce ton satirique était présent dès les premières lignes de la nouvelle, dans l'ironie avec laquelle le narrateur se présentait en grande tenue de soupirant et brossait le tableau de l'époque étrange du romantisme de 1830. Mais au chapitre 1, donc au tout début de la nouvelle, je sortais d'un théâtre où tous les soirs je paraissais en grande tenue de soupirant. Ce début de chapitre était ironique, mais l'ironie était alors imperceptible. Elle n'était pas identifiable. L'ironie agissait sans qu'on puisse la reconnaître véritablement. Et en réalité, l'ironie du chapitre 1 n'apparaît que rétrospectivement. Quant au chapitre 14, on a compris qu'il y a en réalité un écart de 20 ans entre le temps de l'histoire, autour de 1832, et le temps de la narration, autour de 1852. C'est ce décalage historique qui permet aussi un décalage ironique, une distanciation critique. Et donc notre dernier chapitre, « Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie », en assumant la distance critique qui sépare le temps de la narration et le temps raconté, révèle l'ironie qui sous-tendait depuis le début, en fait, le texte, mais que l'on reconnaît rétrospectivement. Alors, dans ce dernier feuillet, l'ironie est perceptible à plusieurs niveaux. Elle est d'abord perceptible dans la description que le narrateur fait de lui-même. Le narrateur se décrit comme un écrivain vieilli, plus ou moins revenu de ses illusions, conscient de ce que ses rêves de jeunesse ont emprunté à un romantisme maintenant daté, maintenant, c'est-à-dire au temps du réalisme. Et c'est surtout le registre de l'idylle qui fait les frais de cette ironie. Le narrateur se présente comme un Werther déchu et anachronique auprès de Sylvie, désormais mariée et mère de famille. Je l'appelle quelquefois Lolotte et elle me trouve un peu de ressemblance avec Werther, moins les pistolets qui ne sont plus de mode. Donc c'était, les pistolets évoquent le suicide romantique, sublime, mais tout cela n'est plus de mode et on le dit avec ironie. Il est question dans ce chapitre 14 d'un édredon, d'une auberge et d'un édredon, l'édredon dans lequel le narrateur dort chaudement à l'image Saint-Jean. On y dort chaudement sous l'édredon qui est d'usage dans ce pays et cet édredon est le symbole un peu comique du nouveau statut de l'écrivain. Il n'est plus le seigneur poète qu'il disait être au chapitre 13 qui accompagnait Aurélie au temps du romantisme, mais il est une sorte de touriste soucieux d'un peu de confort, appréciant le bon air qu'on respire sur ses plateaux. Dans l'ancien monde de l'idylle, tout marque maintenant l'écart entre l'idéal et la réalité, et de cet écart naît le ton satirique du récit. Mais l'ironie est aussi présente à un autre niveau, dans le style de la nouvelle, dans le style de ce dernier chapitre. Car si on lit bien ce dernier chapitre, on se rend compte que le ton de ce chapitre n'est pas simplement un ton élégiaque. En réalité, c'est une parodie du ton élégiaque. C'est-à-dire le ton élégiaque est en quelque sorte forcé, surjoué. Et il semble que Nerval parodie Chateaubriand ou Lamartine. Il en est conscient puisque lui-même écrit « Qu'on me pardonne ce style vieilli ». Donc il comprend que ce qu'il y a de daté dans l'élégie magnifiée jadis par les romantiques. Alors en effet, écoutez bien la prose de ce dernier chapitre et remarquez cette emphase qui, en fait, fait de cette prose une parodie du style élégiaque. Hermenonville, point d'exclamation, pays où fleurissait encore l'idylle antique, traduite une seconde fois d'après Gessner, point d'exclamation, tu as perdu ta seule étoile qui chatoyait pour moi d'un double éclat, tour à tour bleu et rose comme l'astre trompeur d'Aldébaran, c'était Adrienne ou Sylvie, c'était les deux moitiés d'un seul amour. L'une était l'idéal sublime, l'autre la douce réalité. Que me font maintenant tes ombrages et tes lacs, et même ton désert, Otis, Montagny, Loisy, pauvre hameau voisin, chat Alice que l'on restaure, vous n'avez rien gardé de tout ce passé. Point d'exclamation. L'adresse au nom de lieu, les points d'exclamation, tout cela trahit derrière le style élégiaque une parodie de l'élégie et une parodie du style de Chateaubriand ou de Lamartine. Et donc finalement, dans ce dernier chapitre, les fils de l'idylle et de l'élégie qui se croisaient tout au long du récit sans vraiment se rejoindre, comme ne cesse de se croiser la figure de Sylvie et la figure d'Adrienne, eh bien ces deux fils sont finalement reliés par la satire qui les noue, qui les tresse ensemble. Et donc, on pourrait même voir dans ce dernier chapitre une mise en abîme du récit de Sylvie lui-même. Je la vois, cette mise en abîme, dans la mention de « ces livres si courts qu'on ne fait plus guère ». Voici la phrase « nous lisons quelques livres ou quelques pages de ces livres si courts qu'on ne fait plus guère ». Donc vous voyez, il est possible que le récit que le narrateur achève d'écrire et que le lecteur achève de lire soit mis en abîme dans le texte et désigné comme un récit suranné, démodé, participant d'un romantisme qui n'est plus de mode. Et donc, par là, si vous voulez, Sylvie serait un texte authentiquement ironique. Mais authentiquement ironique, je veux dire par là que Sylvie accomplirait la définition que les romantiques allemands, Schlegel, Friedrich Schlegel, donnaient de l'ironie. Pour Friedrich Schlegel, l'ironie est la poésie de la poésie. C'est-à-dire une poésie au carré, si vous voulez. Une poésie avec exposant. Non seulement une poésie, mais une poésie qui montre et qui démonte la poésie qu'elle est. Une poésie qui déconstruit la poésie qu'elle est. Et donc ce serait cette suprême ironie du récit de Sylvie, capable de se dénoncer lui-même, de démonter la fiction qu'il est, en quelque sorte. À cette réserve près que chez les romantiques allemands, l'ironie est une figure de la maîtrise de l'esprit, alors que vous devinez peut-être que cette ironie chez Nerval a quelque chose de plus ambigu et qu'elle voisine avec cette non-maîtrise absolue qu'est la folie. Folie qui se dit d'une certaine façon dans cet étrange « j'oubliais de dire » par lequel le texte énonce et n'énonce pas, sinon par prétérition, la mort d'Adrienne. Voilà, donc je vous ai montré dans ce premier temps, qui est le principal de cet exposé, comment le récit parcourt les trois modes lyriques principaux définis par Schiller à partir d'une opposition de l'idéal et de la réalité, l'idylle, qui est le mode dominant, et, de manière plus sous-jacente mais très réelle, l'élégie, à travers Adrienne, et la satire, à travers la voix narrative qui serait une voix ironique, au sens romantique du terme. Mais dans un deuxième temps de cet exposé, je voudrais vous suggérer comment ces trois catégories de la poésie sentimentale, selon la terminologie de Schiller, sont mises en regard de ce que Schiller avec ce que Schiller appelait la poésie naïve. Et donc je voudrais revenir sur le diptyque que composent Sylvie d'un côté et Chansons et légendes du Valois de l'autre. Sylvie, la poésie sentimentale, Chansons et légendes du Valois, la poésie naïve. Alors en effet, dans ce diptyque, tout met les chansons et les légendes du Valois du côté du naïf, au sens où l'entend Schiller. Non seulement parce que les chansons touchent au natal, j'ai été bercé avec cette chanson d'Inerval, mais aussi parce que les chansons sont la figure d'une poésie qui est au monde, une poésie incarnée, une poésie liée à une terre, le Valois, et liée à une voix, la voix des jeunes filles. Et donc, la poésie des chansons est liée intrinsèquement à l'immédiateté sensible et du monde et de la langue. Nerval ne cesse de le remarquer quand, par exemple, il parle du français si naturellement pur des chansons et quand il relève jusque dans leur syntaxe les marques d'une oralité qui leur est consubstantielle, comme ces liaisons de fantaisie, « j'ai un coquin de frère » qui heurtent les censeurs lettrés. Il note avec attention les qualités propres de la voix à laquelle les chansons restent intimement liées parce qu'elles ne sont pas un texte écrit, mais une parole vive qui se soutient seulement du temps musical qui préside à son énonciation. Donc, de toute évidence, les chansons sont du côté de la naïveté au sens où l'entend Schiller. Et réciproquement, le récit de Sylvie est, de toute évidence aussi, du côté de la sentimentalité. Et donc, la poésie naïve, c'est une poésie qui est au monde. La poésie sentimentale est une poésie coupée du monde et qui cherche à retrouver le monde sensible par le détour de l'imaginaire et du langage. Eh bien, Sylvie, nouvelle extrêmement lucide, critique, tente de se ressaisir justement de cette naïveté que représentent les chansons du Valois. Les chansons du Valois constituent en quelque sorte la trame profonde sur laquelle se détache la nouvelle. Et on a remarqué souvent que chaque fois que le texte cite une chanson, la chanson semble mettre en abîme le texte qui l'accueille. Ainsi, de la chanson d'Adrienne au chapitre 2, qui raconte les malheurs d'une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d'un père qui la punit d'avoir aimé, et qui semble ainsi préfigurer le destin de l'héroïne qui sera enfermée, sinon dans une tour, du moins dans un couvent. Ou encore au chapitre 12, lorsqu'il est question de la chanson Ada Martin Léa Trois Belles Filles, on devine que ces trois belles filles auront été dans la nouvelle, tour à tour, Adrienne, Aurélie et Sylvie. Pourtant, et c'est là le point principal, entre d'un côté les chansons et de l'autre la prose de Sylvie, existe un écart. Et cet écart ne cesse de se creuser, en fait. Au contact de la naïveté des chansons, la prose nervalienne ne se contente pas de devenir, comme on l'a dit souvent, chantante ou enchantée, elle se révèle aussi trop littéraire, en quelque sorte. Et il arrive à la prose de Nerval ce qu'il arrive au chant de Sylvie quand elle a appris les airs d'opéra. Vous savez, Sylvie refuse de chanter les chansons naïves de l'enfance et se met à phraser un air d'opéra. Sylvie modula quelques sons d'un grand air d'opéra moderne, elle phrasée. Eh bien, tout comme l'héroïne, Sylvie, la nouvelle, Sylvie, phrase. au regard des chansons naïves de l'enfance. Et au fond, Nerval en est lui-même conscient, parce qu'il est conscient de tout ce qui, au regard du chant, de la naïveté du chant perdu du Valois, il est conscient de tout ce qui entre de littérature dans sa prose. Et il est conscient qu'il y a dans son style quelque chose de maniéré, qu'on me pardonne ce style vieilli. Nerval, dans une lettre, dit de sa prose qu'elle est trop perlée, je perle trop. Donc il y a quelque chose de trop savamment littéraire. Et ce qui fait la réussite littéraire de Sylvie fait aussi son échec, puisque c'est cette réussite littéraire que fait qu'échappent les chansons naïves du Valois. Donc plus le récit se fait littéraire, moins il est en harmonie avec la naïveté première des chansons de l'enfance. Et donc nous avons bien affaire à un diptyque, Sylvie d'un côté, chansons et légendes du Valois, mais entre Sylvie et chansons et légendes du Valois, l'accord n'est pas un accord heureux, à l'unisson, si vous voulez. Et d'un volet à l'autre du diptyque, tout un travail négatif se déploie. Dans Sylvie, la prose, en se faisant précieuse, s'évide de la présence en elle du chant qu'elle cherche à capter. Dans chansons et légendes du Valois, la poésie populaire, parce qu'elle est menacée de disparition et se dérobe à la mémoire de l'écriture, revêt une forme d'existence, pour ainsi dire, fantomatique, qui la soustrait à la prise du recueil. Et d'ailleurs, Nerval a cette notation très mélancolique dans Chansons et légendes du Valois. Il écrit « Aujourd'hui, je ne puis arriver à les compléter, ces chansons, car tout cela est profondément oublié. Le secret en est demeuré dans la tombe des aïeuls. » Dans cet accord, qui est donc un accord négatif entre la chanson et l'écriture, Nerval, cette fois, se sépare de Schiller. Car pour Schiller, comme pour les romantiques allemands, la poésie naïve existait réellement. C'était la poésie des peuples et elle avait une réalité effective. Pour Nerval, au contraire, la possibilité du naïf semble s'être irrémédiablement éloignée ou peut-être avoir toujours manqué. Et donc c'est seulement sur le mode d'une hantise que les chansons et légendes, que les chansons accompagnent la prose, et dans cette hantise s'ouvre à travers Nerval la fracture de la modernité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les genres lyriques dans Sylvie. Donc vous avez vu comment je suis parti de Schiller, de cette opposition du naïf et du sentimental, retrouvant à partir du couple philosophique de l'idéal et de la réalité les trois genres, les trois modes lyriques principaux, l'idylle, l'élégie, la satire, mais en montrant comment aussi l'écho qui se noue, qui se tisse entre d'un côté Sylvie, de l'autre chanson des Landes du Valois, est un écho négatif où la poésie sentimentale qu'incarne Sylvie prend conscience d'une manière moderne et non plus romantique de l'écart qui la sépare de la poésie naïve que représentent les chansons et légendes du Valois, une poésie naïve mais désormais perdue. Et donc la modernité, c'est peut-être une conscience plus aiguë, plus douloureuse de cette perte. Donc, Alors, Donc c'est un premier exposé. Il peut y avoir une suite si vous le souhaitez. Nous avons le temps, je crois. Mais il peut aussi y avoir des questions dès maintenant. Allez-y.
Vous parliez du fait que Nerval fait référence à Rousseau et qui parle donc de la perversion de la société. Et justement, est-ce que Sylvie marquerait pas plutôt le passage de l'idéal à l'élégiaque, puisque au début, elle représente justement la société aliénée, puisqu'elle est au départ une petite fille sauvage, innocente, puis une dentelière, c'est-à-dire une jeune fille qui gère son temps, qui est maître du temps et qui produit de la beauté, puisque la dentelle, c'est un beau produit. Et enfin, est une dame très, on va dire, qui copie, enfin très à la mode, qui copie la mode parisienne et qui produit des gants, donc de l'argent. C'est-à-dire qu'elle est, on va dire qu'elle incarne justement la tradition qui n'est plus. Donc est-ce que finalement, elle marque pas vraiment le passage de l'idéal à l'élégiaque?
Oui. Alors vous avez tout à fait raison. Sylvie est écrite en 1852, publiée en 1853, reprise en 1854 dans Les Filles du Feu. Et ces dates-là, c'est le début du Second Empire et donc le début de l'industrialisation de la France et des campagnes. Et donc Nerval relève avec beaucoup d'acuité les signes de cette industrialisation, de cette corruption, dirait Rousseau, de la campagne par la ville. Et cela se voit en effet dans l'évolution du statut de Sylvie, qui de dentelière devient gantière, et de gantière devient finalement pâtissière en épousant le grand frisé qui est allé s'installer à Dammartin pour devenir pâtissier. Donc c'est un premier exode rural, si vous voulez, vers le bourg, vers la ville. Et à un endroit du récit, Sylvie a cette phrase qu'elle envoie au héros narrateur: il faut songer à du solide. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans le rêve simplement et songer à du solide. Et donc, il faut se marier, avoir un métier. Et donc, ce qui est très finement pointé par Nerval, c'est le début de l'industrialisation, de la corruption de la campagne par la ville. Nerval rêve son Valois comme un Valois qui serait protégé à l'écart de l'histoire. Et en réalité, même dans ce lieu à l'écart de Paris, où on passe de Paris au Valois que par le rêve, en fait, puisque le voyage se fait presque en rêve, et bien même dans ce Valois protégé, on découvre des traces d'une industrialisation. Voilà. Et puis, donc Rousseau est présent dans le Valois de Nerval, mais il est surtout présent par son absence, puisque à Ermenonville, il n'existe que le cénotaphe de Rousseau, le tombeau de Rousseau, vide de ses cendres, puisque Rousseau a été transporté au Panthéon. Donc le philosophe qui devait garantir, en quelque sorte, la pureté de la vie des champs, est présent dans le Valois, mais est présent par son absence. Donc il manque au Valois, dont il est pourtant la figure tutélaire, d'une certaine façon. Il y aurait beaucoup de choses à faire sur le Rousseau de Nerval.
Bonsoir. Ça n'a pas forcément un rapport direct avec ce dont vous avez parlé, mais c'est juste au niveau de la structure. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est 13? Est-ce qu'on peut découper en 12 plus 1 en quelle partie le dernier chapitre se détache du reste de l'œuvre, mis à part le côté satirique et ironique et la mise à distance que vous avez?
Alors, voilà. C'est une question très importante, puisque la composition de Sylvie est d'une science absolument remarquable. Et donc, c'est des choses que vous devez absolument maîtriser dans vos travaux. Donc, en effet, le 14e chapitre, qui s'intitule « Le dernier feuillet », se distingue des autres parce que apparaît le présent de la voix narrative. Telles sont les chimères qui charment tes gars au matin de la vie. Donc, le narrateur parle au présent, Nous sommes en 1852, soit 20 ans après le temps raconté. Adrienne est morte vers 1832, donc l'époque étrange du début, c'était les années 1830, et on en parle en fait à 20 ans de distance. Donc le chapitre 14, le dernier feuillet, est nettement décalé par rapport aux autres. La structure des chapitres est très savante. Il y a 13 plus 1. Le nombre 13 est important chez Nerval, puisque vous savez qu'il y a un sonnet de Nerval, Artemis, qui dit « La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi la première ou dernière, es-tu roi, toi le seul ou le dernier, Raman. » Ce 13e chapitre s'intitule d'ailleurs « Retour ». Donc comme si, au 13e chapitre, on pouvait encore rêver que tout recommence. Et vous savez qu'il y a dans la nouvelle aussi une figure du temps arrêté qui est au chapitre 3, cette horloge arrêtée, avec un emblème de la Renaissance, donc que tout renaisse, que le passé perdu renaisse, une sorte d'éternel retour, de cercle éternel des heures, des ronds, des heures et des chapitres, finalement. En outre, vous avez aussi une division binaire de la nouvelle en 2x7 chapitres. Les 7 premiers chapitres sont plutôt des chapitres consacrés aux souvenirs, au passé, alors que les 7 suivants sont les chapitres du présent. Il y a une coupure entre le 7e et le 8e chapitre qui est aussi très nette. Mais on pourrait aussi développer cela. Par exemple, des choses troublantes, il y a 14 chapitres dans Sylvie, et vous savez que dans un sonnet, il y a 14 vers. Et donc on aurait presque envie de dire, un peu en jouant, que Sylvie serait une sorte de sonnet en prose, où les 14 vers seraient devenus 14 chapitres, mais rimant entre eux, puisque ces 14 chapitres sont pris dans des jeux d'échos et de reflets tout à fait étonnants. Donc c'est un modèle de prose poétique, si vous voulez.
Merci.
Donc je vais vous proposer une autre réflexion liée à celle que je viens de vous dire sur les chansons et légendes du Valois. Donc n'oubliez jamais que Chansons et légendes du Valois fait partie de Sylvie. Je vais vous expliquer à quel point c'est important, je vous l'ai déjà un peu dit. Nerval, puis aussi bien que par exemple plus tard Verlaine ou Rimbaud, font des vieilles chansons pour Nerval, des ariettes oubliées pour Verlaine, des refrains niais pour Rimbaud, font donc de quelque chose comme la chanson la figure exemplaire de cette poésie naïve que la modernité laisse derrière elle et qui, soldée par elle, solde est le titre d'un poème de Rimbaud dans Illumination. Cette poésie soldée par la modernité revient cependant obstinément en elle sous la forme d'une véritable hantise. Et cette hantise des chansons chez Nerval touche au plus intime du sujet et notamment au souvenir de la mort de la mère. Cela est dit presque explicitement dans « Promenades et souvenirs » qui est le dernier texte de Nerval avec Aurélia. Dans « Promenades et souvenirs », Nerval revient sur les chansons du Valois en dévoilant alors explicitement le fil qui les relie au souvenir de la mort de la mère. Et il fait remonter là les origines de sa vocation d'écrivain, de sa vocation de prosateur. Je vous cite ce passage de Promenade des souvenirs. « Je n'ai jamais vu ma mère. Ses portraits ont été perdus ou volés. » Je saute un passage. « Livré souvent aux soins des domestiques et des paysans, j'avais nourri mon esprit de croyances bizarres, de légendes et de vieilles chansons. Il y avait là de quoi faire un poète et je ne suis qu'un rêveur en prose. » Eh bien, au fond, je voudrais, dans cette conférence, vous lire le recueil des chansons et légendes du Valois en écoutant en lui la résonance de ce « là » rêveur. Il y avait là de quoi faire un poète, je ne suis qu'un rêveur en prose. Résonance par laquelle les chansons se lient au plus intime de la problématique du sujet, en même temps qu'elles apparaissent comme le foyer secret de la poétique nervalienne. Mais avant d'aborder ces deux points, qui font du recueil des chansons ce que l'on pourrait appeler la chambre d'écho de l'œuvre de Nerval, il faut d'abord que je suive les métamorphoses de ce texte, Chansons et légendes du Valois, qui existe en réalité depuis 1842, dont l'historicité apparaît quand il est incorporé dans Sylvie. Donc, si vous voulez, je vais vous proposer un exposé qui suivra le plan suivant autour des chansons et légendes du Valois. Je vais vous donner surtout l'architecture générale de mon exposé. Dans un premier temps, je suivrai ce que j'appellerai les métamorphoses d'un texte. Entre 1842 et 1854. Puis, dans un deuxième temps, je me demanderai comment Chansons et légendes du Valois dévoilent l'imaginaire du sujet, et donc notamment se lie à la mémoire et à l'oubli. Et dans un troisième temps, je réfléchirai sur le rapport que je viens en réalité d'évoquer entre chanson et écriture dans ce diptyque que compose Sylvie d'un côté, Chansons et légendes du Valois de l'autre. En tout cas, lorsque Nerval, en 1854, reprend Chansons et légendes du Valois pour l'intégrer dans Les Filles du Feu à la suite immédiate de Sylvie, peut-être veut-il fixer enfin un texte qui existe depuis 1842, où il a été publié dans la Sylphide sous le titre Les Vieilles Ballades Françaises, et qui entre 1842 et 1854 a fait l'objet d'au moins 8 publications. D'incessantes réécritures et de bien étranges dépeçages. Et au fond, en étudiant ces métamorphoses d'un texte, je voudrais vous montrer comment un texte de journaliste devient un texte d'écrivain. Car au début, en 1842, donc, dans La Sylphide, la revue La Sylphide, Nerval publie Les Vieilles Ballades Françaises. C'est le texte souche, en quelque sorte. Eh bien, qu'est-ce que Les Vieilles Ballades Françaises ? C'est un texte de journaliste, ou plutôt, il faudrait dire, de littérateur. Et Gautier disait que Nerval est de tous les écrivains du XIXe siècle celui qui incarne le mieux peut-être la condition de l'homme de lettres, la condition du littérateur. Hein, le mot est important, c'est un mot d'époque. Et donc, qu'est-ce que Chansons et légendes du Valois sous le titre Les Vieilles Ballades Françaises ? Eh bien, c'est une enquête érudite qui se distingue d'ailleurs encore aujourd'hui aux yeux des folkloristes par l'exactitude d'historien avec laquelle Nerval recueille quelques 17 fragments de chansons. Et dans ce texte, Nerval ne fait que broder sur des thèmes d'époque, le mythe romantique de l'enfance des peuples, l'attention aux traditions orales comme étant fondatrice des grandes littératures nationales. Thème que l'on retrouve chez Chateaubriand, chez Madame de Staël ou chez Charles Nodier. Bref, ce Nerval-là est un Nerval engagé dans des questions d'actualité littéraire. Et chanson, j'ai les gens du Valois sous le titre « Les vieilles ballades françaises », avec la publication du « Choix des poésies allemandes » et la publication des « Choix des poètes du XVIe siècle », tout cela constitue ensemble un plaidoyer, une défense et illustration pour une poésie nationale et populaire, c'est-à-dire pour une poésie romantique. Donc, c'est manifestement un Nerval très conscient des questions esthétiques de son temps et s'engageant dans des questions d'actualité littéraire. D'ailleurs, il nous dit explicitement dans Chansons et légendes du Valois que s'il recueille ces chansons, ce n'est pas pour les enfermer dans son recueil, mais c'est pour qu'elles nourrissent l'inspiration des poètes d'aujourd'hui, de même que les Allemands ont trouvé dans leur culture populaire de quoi nourrir la littérature romantique, de même il faudrait que les écrivains français trouvent dans cette culture populaire de quoi renouveler leur inspiration, alors que le classicisme a coupé la littérature de ses sources populaires et nationales. Donc voilà le thème de ce recueil en 1842. C'est une œuvre de littérateur sur des thèmes d'esthétique romantique à l'ordre du jour au moment où Nerval écrit. Dans la série des republications du texte, une date est importante. C'est 1852, date où Nerval reprend son texte dans La Bohème galante et les petits dans La Bohème galante. Mais entre 1842 et 1852, le contexte a changé. Nous sommes au début du Second Empire, et au début du Second Empire, la France se penche sur sa propre histoire. Et donc, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, demande que l'on réunisse le folklore populaire. Et donc, il charge son ministre de l'Instruction publique, qui s'appelle Hippolyte Fortoul, de faire collecter par un comité d'experts où il y a Mérimée, par exemple, de collecter les chansons populaires de la France. Il faut faire l'inventaire des chansons populaires de la France, justement parce que ces chansons sont en train de se perdre du fait de l'industrialisation, du fait de ce début d'exode rural que l'on voit apparaître. L'enquête Fortoul aurait pu réjouir Nerval, puisqu'au fond, le travail qu'il avait fait 10 ans auparavant aurait pu être reconnu par l'enquête Fortoul, et on peut même dire que l'enquête Fortoul repose sur une idée des chansons populaires qui est assez comparable à l'idée que Nerval a lui-même exposé dans les vieilles ballades françaises. Comme Nerval, les personnes chargées de faire l'enquête Fortoul demandent que l'on respecte les variantes, que l'on ne mette pas la poésie populaire en vers, que l'on ne l'embellisse pas, qu'on la reproduise telle qu'elle. Donc tout cela aurait pu réjouir Nerval. Et pourtant, au moment où il prend connaissance de cette enquête Fortoul dans toute la France, Nerval est pris d'inquiétude, voire d'angoisse. Et il éprouve le besoin de démarquer sa propre recherche folkloriste qui se fait au nom de la poésie, de l'enquête Fortoul qui se fait au nom de la loi et de la science. Je crains, écrit-il, que le travail qui se prépare ne soit fait purement au point de vue historique et scientifique. Pourquoi une telle crainte? Eh bien, vous le comprenez si vous avez lu Angélique de Sylvie, des Filles du Feu, la première des Filles du Feu, où Nerval cite d'ailleurs plusieurs chansons du Valois. Là aussi, le contexte du début du Second Empire ou de la fin de la Seconde République est tout à fait déterminant, puisque l'amendement Riancé dans Angélique interdisait que l'on fasse du feuilleton roman. Donc Nerval était condamné autour de l'abbé de Bucquoy, du personnage de l'abbé de Bucquoy, à ne faire que de l'histoire. Eh bien, de même, de la même façon que le livre de l'abbé de Bucquoy se dérobe aux critères de ce que Nerval appelle la science régulière, les chansons pour Nerval ne sauraient se réduire aux classifications savantes qui tentent de les identifier et de les répertorier. Revenu d'un temps d'avant le temps historique de l'écriture, avant d'écrire « Chaque peuple a chanté », disait Nerval au début du texte intitulé « Les vieilles ballades françaises », les chansons débordent infiniment la mémoire des archives et situent l'origine de la poésie dans une antériorité impensable, où celle-ci n'est pas seulement oubliée ou refoulée par le monde moderne, mais bien plutôt foreclose de sa mémoire, effacée de toute trace et par là radicalement soustraite aux prises de la loi. Et donc l'écriture poétique de Nerval doit délaisser alors l'illusoire sécurité de l'enquête historique pour se mesurer plus périlleusement, plus follement, à un objet par essence insaisissable, des chansons jamais écrites et qui ne se laissent pas fixer dans l'écriture. Donc là où la loi, l'enquête Fortoul, visait à la constitution d'un patrimoine culturel, l'œuvre nervalienne trouve dans les chansons du Valois son secret, en quelque sorte, et le secret de son désœuvrement, de son origine, de là où elle va vers l'absence d'œuvre. Et donc, c'est ce qui pousse Nerval à soustraire les chansons du Valois à l'apparence de l'histoire pour les inclure dans un espace littéraire, un espace de fiction. Et donc cette inclusion des chansons du Valois dans Les Filles du Feu à la suite immédiate de Sylvie vaut en quelque sorte comme un geste d'opposition au nouvel ordre qu'établit le Second Empire. Si vous voulez, les chansons, Nerval les protège en les incluant dans son recueil. L'histoire n'aura pas le dernier mot sur les chansons du Valois, c'est la poésie vive, l'œuvre vive, qui doit dire leur sens. Donc voilà ce premier point, comment, au fond, les métamorphoses d'un texte sont très significatives. Nous avons au début un texte de journaliste, un peu impersonnel, et à l'arrivée, un texte auquel Nerval tient follement, parce qu'il faut que seul un écrivain s'empare des chansons. Au fond, quelle est la différence entre un écrivain et un historien? C'est que pour l'historien, le passé est une chose du passé. L'historien ne s'empare du passé qu'en consacrant sa mort, alors que l'écrivain veut s'emparer de ses chansons du passé pour dire leur vie dans l'écriture. Donc les recueillir sans les trahir, sans les tuer, en quelque sorte. Sans en faire des pièces de musée momifiées. Alors, cela est d'autant plus important pour Nerval que, et c'est le deuxième point de cet exposé, les chansons et légendes du Valois touchent au plus intime de lui-même, au plus intime de sa problématique personnelle. Lorsque Nerval se penche sur les chansons et légendes du Valois, son écriture prend la forme d'une sorte d'autobiographie, ou peut-être mieux encore, d'une sorte d'auto-analyse avant la lettre. Les chansons du Valois disent un traumatisme de l'enfance, la mort de la mère, et c'est sur ce traumatisme que Nerval se penche. Et j'en veux pour preuve le prologue que Nerval ajoute au texte de 1842 quand il le reprend pour l'annexer aux Filles du Feu à la suite de Sylvie. Ce prologue est un prologue autobiographique. Le voici. Chaque fois que ma pensée se reporte au souvenir de cette province du Valois, je me rappelle avec ravissement les chants et les récits qui ont bercé mon enfance. La maison de mon oncle était toute pleine de voix mélodieuses et celle des servantes qui nous avaient suivies à Paris chantaient tout le jour les ballades joyeuses de leur jeunesse dont malheureusement je ne puis citer les airs. J'en ai donné plus haut quelques fragments. Aujourd'hui, je ne puis arriver à les compléter car tout cela est profondément oublié. Le secret en est demeuré dans la tombe des aïeuls. Il ne s'agit que de quelques lignes, mais vous voyez ces quelques lignes qui réorientent l'enquête historique de 1842 dans un sens extrêmement personnel. Et on reconnaît en quelques lignes tous les motifs autobiographiques que l'œuvre des dernières années de la vie de Nerval ne va cesser de ressasser, de réécrire. Il est question du Valois de l'enfance, de la figure de l'oncle maternel. On pourrait parler aussi du mundus muliebris, du monde féminin, dans lequel évolue l'enfant orphelin de mère. Enfin, il est question de ces voix mélodieuses qui apparaissent comme le fil rouge de tout le versant maternel de la rêverie nervalienne. Alors, cette rêverie que portent les chansons, quelle est-elle? De quoi nous parle-t-elle? De quoi nous parlent les chansons du Valois? En un mot, elles nous parlent de l'immémorial et de l'originaire. Donc, tout le dit. Les chansons sont liées à une terre, à tous égards dépositaire de l'identité imaginaire de l'écrivain. En ce vieux pays du Valois, dit Nerval, elles portent jusque dans le présent le souvenir du passé le plus ancien, dont leur parler si naturellement pur, elles ravivent la vieille langue française retrouvée par-delà les réformes du XVIe siècle et du classicisme, et en se transmettant des mères aux filles, dit Nerval, elles demeurent toujours les mêmes, sans toutefois que cette lignée sans père, il faut le remarquer, leur confère une identité fixe. Donc vous voyez, les chansons, du point de vue de l'imaginaire, parlent de l'origine. Elles sont le murmure de l'origine et de l'immémorial. Mais en même temps, les chansons ont cette vertu de donner au souvenir une extension imaginaire, tout à fait prodigieuse. C'est le cas, par exemple, dans le poème « Fantaisie ». Il est un air pour qui je donnerais tout Mozart, tout Rossini et tout Weber, un air très doux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Eh bien, cet air porte la mémoire jusqu'au seuil d'une autre existence. Donc vous voyez, la chanson porte le souvenir, mais le souvenir qu'elle porte excède les limites de la mémoire individuelle. C'est le cas aussi, bien sûr, à la fin du chapitre 1 de Sylvie, où, en se souvenant des fêtes du bouquet provincial, de loin en loin, Nerval se souvient des fêtes druidiques répétées d'âge en âge. Donc vous voyez, voilà le propre du souvenir nervalien et ce qui le distingue en partie du souvenir proustien, c'est que le souvenir nervalien ne cesse de s'approfondir, d'aller toujours plus loin dans le passé et de dépasser les limites de la mémoire individuelle au risque de perdre le sujet au seuil de ce que Nerval appelle dans un de ses textes délirants intitulé « La généalogie fantastique » au risque de le perdre au seuil de la nuit des temps. Donc vous voyez, pour Proust, parce que le souvenir est ancré dans la sensation, il y a la possibilité d'un temps retrouvé. Pour Nerval, parce que le souvenir n'est pas ancré dans la sensation, mais ouvre simplement un espace imaginaire, il n'y a pas de temps retrouvé, mais au contraire, le risque d'une perte du sujet dans la nuit des temps, dans l'insondable, dans la nuit des temps, au-delà des limites de l'existence individuelle. Et c'est aussi le cas dans un autre texte, Aurélia. À la fin d'Aurélia, Nerval ramène à la vie un autiste auquel il donne le nom de Saturnin en lui chantant des chansons de la campagne dont il était issu. Donc vous voyez, la chanson chez Nerval fait magiquement le lien entre la vie et la mort. Donc vous voyez, la chanson n'est pas si rassurante que cela. Elle parle de l'origine, mais en même temps elle la recule toujours plus loin, au-delà de toute mémoire. Et par ailleurs, donc c'est une deuxième idée dans cet ordre d'idées, la chanson parle du traumatisme personnel. Et si Nerval ressasse les chansons du Valois, c'est peut-être parce que, psychanalytiquement parlant, le matériau symbolique des chansons lui permet de réélaborer un traumatisme premier, celui de la disparition de la mère. Et j'en voudrais un indice. Je voudrais vous parler brièvement d'une seule chanson que je vous ferai peut-être écouter à la fin de la séance. C'est la chanson « La fille du roi Louis ». La fille du roi Louis. Cette chanson, elle est citée intégralement dans Angélique, au début de la septième lettre. Je vous lis le texte pour vous montrer combien dans les matériaux symboliques que brassent les chansons, il y a en réalité des choses très traumatisantes. Le roi Louis est sur son pont, tenant sa fille en son giron. Elle lui demande un cavalier qui n'a pas vaillant six deniers. Oh oui, mon père, je l'aurai, malgré ma mère qui m'a porté, aussi malgré tous mes parents, et vous, mon père, que j'aime tant. Ma fille, il faut changer d'amour ou vous entrerez dans la tour. J'aime mieux rester dans la tour, mon père, que de changer d'amour. Vite, où sont mes estafiers, aussi bien que mes gens de pied, qu'on mène ma fille à la tour, elle n'y verra jamais le jour. Elle y resta 7 ans passés, sans que personne pût la trouver. Au bout de la 7e année, son père vint la visiter. « Bonjour, ma fille, comme vous en va ? Ma foi, mon père, ça va bien mal. J'ai les pieds pourris dans la terre et les côtés mangés des vers. Ma fille, il faut changer d'amour ou vous resterez dans la tour. J'aime mieux rester dans la tour, mon père, que de changer d'amour. » Donc voilà la chanson avec laquelle Nerval dit avoir été bercé. Et cette chanson, vous la reconnaissez peut-être dans la chanson que chante Adrienne au chapitre 2, cette chanson qui évoque les malheurs d'une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d'un père qui la punit d'avoir aimé. Et cette chanson est encore citée, bien sûr, dans Chansons et légendes du Valois, et elle est encore reprise dans le dernier texte de Nerval, Promenades et souvenirs. Mais là, elle est accouplée à une autre chanson, Le tueur de femmes, selon Paul Bénichoux, qui fait ressusciter la jeune fille enfermée dans sa tour en une femme vampire ou une goule affamée de sang. Pourquoi je vous raconte tout cela ? Parce que, vous voyez, à travers l'étrangeté de ces métamorphoses qui transforment une jeune fille aimant jusqu'à la mort un beau cavalier ou un roi en une femme vampire, dans ces métamorphoses, vous avez un scénario fantasmatique qui se met en place, où en quelque sorte les chansons du Valois servent de souvenir écran à une scène traumatique. On pourrait le comprendre aussi si l'on met en rapport les premières phrases du texte « Chansons et légendes du Valois » et les dernières phrases de ce texte. Les premières phrases nous disent que les chansons, tout cela est profondément oublié. Le secret en est dans la tombe des aïeuls. Les dernières phrases du texte nous disent au contraire que les chansons se gravent ineffaçablement dans l'esprit. Donc il y a une apparente contradiction. Mais la contradiction se lève si on saisit la logique inconsciente du texte. L'oubli où gisent les chansons est ce qui d'elles ne s'oublie pas. Donc au fond, de quoi nous parlent les chansons ? Elles nous parlent précisément de cet oubli qui ne s'oublie pas, c'est-à-dire de la mère jamais vu. Donc voilà comment on pourrait interpréter, si vous voulez, mais de manière psychanalysante, les chansons du Valois. Elle renvoie, Nerval nous dit, j'ai été bercé avec ces chansons. Elle renvoie donc au maternel, mais elle renvoie plutôt, si vous voulez, au souvenir blanc de la mère, à ce souvenir blanc qu'a laissé la mère dans l'inconscient en disparaissant de la vie de l'enfant. Maintenant, dans le troisième et dernier temps de cet exposé, dont je vous indique simplement les grandes lignes, je voudrais revenir sur le lien entre chanson et écriture. Eh bien, on pourrait dire, si vous voulez, dans l'œuvre de Nerval, les chansons et légendes du Valois sont en quelque sorte l'architexte de l'œuvre, le texte originaire où, à partir duquel toute l'œuvre, auquel toute l'œuvre puise, son fond de rêve, mais aussi son abîme. Si vous voulez, les chansons, c'est là où l'œuvre puise comme à une réserve de rêve, mais c'est là aussi où elle se désœuvre de ne trouver en définitive aucun point d'appui, puisque cette poésie n'a jamais été fixée dans l'écriture et donc elle ne donne aucune assise sûre au travail de la recomposition mémorielle et textuelle. Alors, en effet, lorsque Nerval parle des chansons du Valois, il indique très bien que les chansons ne relèvent pas de l'écriture. Elles sont liées à de la musique, et il regrette de ne pouvoir noter les airs, et elles sont liées à l'oralité. L'oralité qui permet leur transmission des mères aux filles, mais qui fait que toute transcription est une trahison. Donc, si vous voulez, pas plus que le rêve dans Aurélia, les chansons ne se laissent transcrire dans l'écriture. Et cela est si vrai que les chansons n'ont pas même un thème fixe. Nerval comprend bien que par le mode même de leur transmission orale, le thème de la chanson ne cesse de changer, de se métamorphoser en passant des mères aux filles, et donc que les variantes sont la règle dans la transmission des chansons. Et donc, ainsi, cette poésie est une œuvre vive de la mémoire et de l'oubli, une poésie née d'aucun auteur identifiable, mais transmise et réélaborée d'âge en âge, sans aucun contour propre, mais aussi malléable que les fugitives apparitions du rêve. Les chansons demeurent toujours la même, en se produisant dans le toujours autre. Eh bien, c'est cette qualité instable, mouvante de la chanson qui fait qu'en effet, elle ne se laisse pas fixer dans l'écriture. En témoignent justement les incessantes réélaborations du recueil « Chansons et légendes du Valois », pas moins de 8 publications, comme si aucun recueil ne suffisait pour capter définitivement ce qu'il en est de ces chansons qui se dérobent à la maîtrise de l'écriture. Et de même que Nerval déplore de ne pouvoir capter que des lambeaux de poésie, le recueil lui-même est un recueil qui tombe en lambeaux. Donc ce n'est pas du tout comme l'enquête for Toul, une œuvre patrimoniale, on constitue un patrimoine national, mais c'est une œuvre toujours, comme les chansons elles-mêmes, menacée par la perte, lacunaire, fragmentaire, trouée d'oubli, grevée de mort. Eh bien, par ailleurs, ces chansons, de ne pouvoir être fixées dans un recueil donné, vont essaimer dans les alentours de l'œuvre. Et donc les chansons essaiment dans Sylvie, mais aussi dans Angélique, mais encore dans Promenades et souvenirs, et en partie aussi dans Aurélia. Et donc je vous ai dit tout à l'heure l'importance des chansons dans Sylvie. Les chansons, si vous voulez, sont le modèle que voudrait prendre la prose de Sylvie, qui voudrait être, à l'image des chansons, une prose chantante et enchantée. Mais, de même que la petite paysanne phrase, en oubliant la naïveté des chansons de l'enfance, de même, la prose de Sylvie est trop savante, trop consciente, trop lucide. Et donc, elle laisse disparaître en elle ces chansons naïves dont elle essaie de se saisir. Donc, vous voyez, je le redis, la réussite de Sylvie est en réalité son échec, puisqu'en réussissant littérairement, elle trahit cette naïveté qui est la marque distinctive des chansons. On pourrait évoquer, mais ces œuvres ne sont pas au programme, Angélique, où il semble que la chanson va de pair avec un récit détissé, digressif, avec quelque chose que j'appellerais une prose errante. Et en définitive, si vous voulez, on pourrait dire que, et c'est pour conclure, que les chansons sont la figure de cette langue perdue qu'est pour Nerval la langue maternelle. Alors que les vers des chimères font revenir cette langue maternelle perdue dans une hallucination de poésie, la prose, au contraire, celle de Sylvie, d'Angélique ou d'Aurélia, tente de parler cette langue dans un écart où, familière, elle devient étrangère à elle-même en conférant en retour à l'écriture du rêveur en prose ce caractère insistant d'inquiétante étrangeté qui est la marque de reconnaissance de la voix de Nerval. Au fond, quand il parle la langue du Valois, il la parle avec comme une langue étrangère, en quelque sorte. Et Freud a théorisé l'inquiétante étrangeté comme étant le signe du retour du refoulé. Donc quelque chose du refoulé maternel revient dans la langue, et ce retour est sensible jusque dans le style, jusque dans l'écriture de Nerval. Voilà du moins ce que j'ai essayé de vous suggérer. Je vous remercie. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions qui puissent aider votre préparation au concours.
Si j'ai bien compris, la partie plutôt prose de Sylvie s'éloignerait de la partie poétique des chansons qui sont mises après par rapport au diptyque. Est-ce qu'on pourrait pas penser aussi que l'échec qu'il a à retrouver ses souvenirs, c'est une espèce de beauté poétique, parce que justement il n'arrive pas à ressaisir l'origine de ses souvenirs de la même manière que dans les chansons, il n'arrive pas à ressaisir l'origine de ses chants. Je ne sais pas si c'était clair.
Oui. En tout cas, ce qui rend Nerval si poignant, si beau, donc c'est ce rapport à la perte. Et peut-être que la beauté est lumière sur fond d'absence, si vous voulez, sur fond de quelque chose qui manque. Et c'est ainsi que Freud, d'ailleurs, interprétait le sourire de la Joconde ou le sourire grec, c'est-à-dire il n'est si beau que de renvoyer à quelque chose qui manque, qui est le sourire maternel, par exemple. Donc il y a cela, et c'est cela aussi la mélancolie, le génie mélancolique. Et vous savez qu'il y a chez Nerval, c'est un génie mélancolique d'une certaine façon, et El Desdichado est un poème de la mélancolie, le soleil noir de la mélancolie. Et le mélancolique est celui qui se mesure à un objet perdu dont la perte est indépassable, mais cette perte devient soleil noir, c'est-à-dire étrangement lumineuse. Et donc les chansons, du fait qu'elles viennent de l'abîme, de l'oubli, illumine en même temps la mémoire. C'est là le paradoxe, si vous voulez. Elles enchantent, c'est comme le chant des sirènes. Elles enchantent et égarent en même temps.
Merci. Moi, j'avais une question à vous poser sur le statut que vous donnez aux contes qui terminent les contes et légendes du Valois. Donc, il y a les chansons, et puis à la fin, il y a ce conte. Qui est un conte, je crois, écrit par Nerval, oui. Inventé par Nerval. Oui. Et donc, quel est ce statut, la place de ce conte, de cette histoire, donc à la fin des contes, sa méditation sur les chansons.
Oui, alors en effet, le conte s'intitule « La reine des poissons » et Paul Bénichoux et d'autres n'ont pas trouvé de source à ce conte, qui semble donc bien être une invention de Nerval. Mais au fond, c'est assez cohérent, puisque Nerval, je vous l'ai dit, recueillait les chansons non pas pour faire œuvre d'historien, pour les muséifier en quelque sorte, mais pour qu'elles nourrissent l'inspiration des poètes contemporains. Et donc lui-même ferait une sorte de « à la manière des contes d'autrefois », et il écrirait de son cru un conte, « La reine des poissons », donc en prolongeant dans son écriture la manière immémoriale des contes pour veiller, des contes d'autrefois. Voilà, c'est un conte en effet très étrange. Que pourrais-je vous dire de plus? Donc il y a des noms qui renvoient. Alors Vladimir Propp parlait de la morphologie des contes, et il y a tous les éléments de la morphologie des contes. Thorsten, le géant, le petit garçon et la reine des poissons. Donc c'est vraiment les matériaux traditionnels des contes, mais refondu dans une écriture personnelle. Et peut-être qu'il y a chez Nerval une scène traumatisante qui est liée aux souvenirs vécus, c'est la pêche aux écrevisses, puisqu'il a failli se noyer alors qu'il cherchait des écrevisses, et c'est l'épisode que lui rappelle le grand frisé. Il avait cassé sa montre, la bête est naillée. Et au fond, ce motif du risque de la noyade a un écho dans La Reine des Poissons. Et par ailleurs, ce motif de la noyade prend des proportions qui sont cette fois hallucinées, catastrophiques, dans Aurélia, où il y a un rêve du déluge, de Paris qui serait emporté par les eaux, le débordement des eaux. Voilà, en tout cas, l'imagination de Nerval fait feu de tout bois, et c'est Georges Poulet qui disait « Tout ce que Nerval touche devient part de lui-même ». Donc il suffit qu'on lui donne un peu de matière de conte, et aussitôt il se l'approprie dans une création personnelle, et il ne voit pas de différence entre ce qui est de lui et ce qui est de l'autre. Et peut-être même un des rêves de l'écriture de Nerval, ce serait de retrouver une des caractéristiques des chansons du Valois, c'est d'être une création anonyme et collective. Donc que ce conte soit finalement un conte de personne, même si c'est Nerval qui l'écrit.
C'est pas seulement un conte. Définirez-vous le rapport de Nerval et la folie? Parce qu'on a l'impression, après votre exposé, que Sylvie, c'est une œuvre très réfléchie, très construite, alors qu'on pourrait penser au premier abord que c'est plutôt un premier jet un peu fou. Enfin, il y a quand même certaines phrases qui paraissent pas au premier abord très réfléchies, ou à ce point-là poussées sur ce que vous avez expliqué sur le deal.
Alors, c'est une question difficile et importante. Donc, vous savez, Baudelaire, lorsqu'il apprend le suicide de Nerval, un an après, évoque ce suicide en disant de Nerval, « Nerval qui fut toujours lucide, qui fut toujours lucide. » Et Proust, qui a écrit un très beau texte sur Sylvie, où il dit que Sylvie, la couleur de Sylvie, c'est le pourpre, le rouge, le pourpre, Sylvie pourprée de ses deux i, dit-il, eh bien dit qu'il y a un peu trop d'intelligence dans sa nouvelle. Donc il voit une architecture extrêmement savante, concertée. Mais ce n'est pas du tout incompatible avec la folie, si vous voulez. Il y a des délires logiques. Et Nerval d'ailleurs en joue et il dit ça à propos d'Aurélia, il dit que son expérience a peut-être manqué de raison, mais jamais de raisonnement. Donc un fou est quelqu'un qui raisonne beaucoup. Et les constructions des fous sont quelquefois hyper rationnelles en fait, ou hyper logiques, disons, même si c'est pas la logique. Et un fou, l'univers du fou n'est pas un univers où il n'y a pas de sens. C'est un univers où il y a trop de sens, où tout fait sens. Et vous voyez, dans l'architecture de Sylvie, tout fait sens à la fois, au point que ça en devient affolant, puisqu'on pourrait interpréter le moindre détail. Donc c'est cela qui est affolant. De même, dans les chimères, ce qui est affolant, ce n'est pas que ces sonnets n'aient pas de sens, c'est qu'ils en aient trop, et que tous ces sens sont vrais ensemble. Voilà comment je répondrai à votre question.
Je vous remercie énormément.
Voilà. Oui, je vous souhaite beaucoup de courage pour la préparation de votre concours. Je vous remercie de votre invitation à nouveau.
La gratitude pour cet exposé.
Merci à vous. Merci à vous tous.